Une reconstitution de la cérémonie de couronnement de Marie-Thérèse en tant que reine de Bohême est organisée ce samedi au château de Prague. Il fallait au moins cela puisqu'on célèbre cette année le tricentenaire de la naissance de la souveraine habsbourgeoise. Sur Radio Prague, on poursuit donc cette série d'émissions consacrées à Marie-Thérèse, la reine de Hongrie et de Bohême, impératrice conjointe du Saint-Empire, par un entretien avec l'historien Jean-Paul Bled qui lui a consacré en 2001 une biographie publiée aux éditions Fayard. Un entretien qui débute par le commencement, la guerre de succession d'Autriche. Quand Charles VI meurt en 1740, c'est sa fille aînée, Marie-Thérèse, âgée alors de 23 ans, qui lui succède en vertu de l'édit de la pragmatique sanction. Mais d'autres souverains ne l'entendent pas de cette oreille. La Prusse de Frédéric II veut la Silésie, un territoire appartenant au pays de la couronne de Bohême, que son armée moderne ne tarde pas à occuper. La France, elle, soutient les prétentions de Charles Albert, l'électeur de Bavière, à prendre la tête du Saint-Empire, au détriment du candidat des Habsbourg, François-Étienne de Lorraine, le mari de Marie-Thérèse. Dans cette guerre, la jeune souveraine ne va pas si mal s'en tirer, comme nous le raconte Jean-Paul Bled.
Marie-Thérèse, certes, ne réussit pas à reprendre la Silésie, elle la perdra. Au traité de Dresde de décembre 1745, qui conclut l'épisode des guerres livrées entre la Prusse et l'Autriche, eh bien, cette paix, ce traité de Dresde, reconnaît à Frédéric II la possession de la plus grande partie de la Silésie. Mais pour le reste de la Bohême, eh bien, Charles Albert en est chassé. Il va donc perdre son titre éphémère de roi de Bohême. Et puis, à la fin des fins, François-Étienne sera élu empereur du Saint-Empire et couronné empereur du Saint-Empire.
Parce que Marie-Thérèse, si elle a pu succéder à son père, à Charles VI, oui. C'est parce que Charles VI avait pris la pragmatique sanction en 1713, 4 ans avant sa naissance. Comment Marie-Thérèse a été préparée au fait qu'elle allait, prendre le pouvoir sur les possessions habsbourgeoises ?
Bien, écoutez, elle n'a pas été préparée. Ça, c'est une lacune majeure, évidemment, dont elle ne porte pas la responsabilité, évidemment. La responsabilité en est portée par son père, qui a effectivement promulgué cette pragmatique sanction en 1713. Cette pragmatique sanction répondait à une situation où Charles VI avait eu un frère, l'empereur Joseph, qui l'avait précédé. Joseph était mort, mais Joseph avait deux filles. Et l'une avait épousé précisément Charles Albert de Bavière, et l'autre avait épousé le prince électeur de Saxe. Et par conséquent, ce que craignait l'empereur Charles VI, c'était que soit le prince électeur de Bavière, soit le souverain de Saxe, eh bien, ne conteste la montée sur le trône de l'enfant de l'empereur Charles VI. La pragmatique sanction n'établissait pas que ce devrait être un garçon. Évidemment, l'espoir de Charles VI, c'était encore d'avoir un garçon. Bon, il a eu un fils, mais qui est mort très très vite. Et donc, en fait, il n'a eu que deux filles. Et c'est l'aînée, Marie-Thérèse, qui lui a succédé. Mais, encore une fois, il n'a pas pris la peine de la préparer à ses fonctions. Alors, est-ce que il pensait que dans la réalité, si Marie-Thérèse régnait, ce serait son époux François-Étienne qui gouvernerait? C'est possible. Il avait d'ailleurs confié les fonctions militaires au dit François-Étienne. Mais en tout cas, elle n'a pas eu la formation à laquelle on aurait pu s'attendre.
Et Est-ce que au XVIIIe siècle, c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir une femme qui réunit autant de pouvoir comme Marie-Thérèse?
Ben, écoutez, le Xe siècle est un siècle assez féminin, parce que avant Marie-Thérèse, il y a eu Elisabeth Farnèse, qui est princesse d'origine espagnole, et qui a entrepris de placer ses enfants pour créer une espèce de constellation farnésienne en Italie, voire en Europe. Et puis surtout, alors ça vient après l'accession de Marie-Thérèse sur le trône, il y a Catherine II de Russie, qui évidemment est un personnage de grand calibre que Marie-Thérèse va connaître, non pas qu'elle se soit jamais rencontrée, mais avec laquelle elle va avoir affaire. Et puis on pourrait ajouter, alors là, celle-ci ne règne pas, mais a une influence considérable, on peut penser à la marquise de Pompadour, qui certes n'a pas régné, mais qui, dans les coulisses, exerçait une influence considérable. Donc, le XIIIe siècle peut être décrit comme un siècle féminin.
Vous avez parlé tout à l'heure de la guerre de succession d'Autriche. Marie-Thérèse, elle règne au moment d'une autre guerre, la guerre de 7 ans. Comment fait-elle la guerre? Est-ce qu'elle est décisionnaire ou est-ce qu'elle délègue pour faire la guerre?
Oui, elle délègue parce que, enfin, elle fait le choix des généraux, du général en chef, mais elle ne s'immisce pas dans la conduite de la guerre. Elle sait très bien faire la part des choses, elle sait très bien qu'elle n'a aucune compétence dans ce domaine et ne cherche pas à en avoir. Et là, évidemment, on ne peut faire la différence avec Frédéric II, qui était à la fois le roi et le général en chef, bien sûr, qui jouait le rôle, en quelque sorte, de connétable pour la Prusse. Marie-Thérèse ne le peut pas et, encore une fois, n'en a aucunement la prétention. Ou son rôle peut être grand, outre le fait qu'elle désigne celui qui commande en chef, c'est dans la préparation de l'armée. Or, entre la fin de la guerre de succession d'Autriche, c'est-à-dire 1748, par le traité d'Aix-la-Chapelle, et le début de la guerre de 7 ans, 1756, il y a donc une période de 8 ans. C'est une période qu'elle met à profit sur le terrain diplomatique, mais aussi pour préparer son armée à reprendre le combat, le moment venu. Elle a tiré des guerres précédentes que l'outil militaire autrichien présentait des défaillances. Donc il fallait les combler et elle a concentré son attention au cours de ces années sur cette exigence de remettre l'armée autrichienne à niveau.
Est-ce qu'au niveau politique, c'est elle qui mène la politique, comme Louis XIV par exemple en France, ou est-ce qu'elle s'entoure de ministres, elle délègue du pouvoir, comme peut-être Louis XV et Louis XVI, en s'entourant d'un conseil des ministres qui va mener la politique générale sur ses possessions?
Alors, c'est elle qui prend les décisions, cela c'est tout à fait clair, mais elle sait s'entourer de collaborateurs. Sur le plan politique, il y a une figure qui émerge au cours de la période, et en particulier, une fois la guerre de succession d'Autriche terminée, c'est le comte puis prince Kaunitz. Kaunitz qui d'ailleurs nous ramène à la Bohème, plus précisément à la Moravie. Il est possessionné en Moravie. C'est un personnage qu'elle a remarqué. Il a une carrière de diplomate et donc elle l'a remarqué dans l'exercice de ses fonctions. Et elle lui a confié des tâches de plus en plus importantes. Elle l'a nommé ambassadeur à Versailles, ce qui était une position capitale, puisque au lendemain de la guerre de succession d'Autriche, elle considère que l'objectif à atteindre, c'est un renversement des alliances, ça veut dire nouer une alliance avec la France, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que toute la tradition habsbourgeoise est toute la tradition française depuis deux siècles, c'est un antagonisme très dur. Or, au lendemain de cette guerre, elle conclut à la nécessité d'un renversement des alliances. Alors, choisir Kaunitz pour la représenter à la cour de Versailles, auprès de Louis XV, c'est signifier qu'elle a investi de sa confiance. Et lorsque il quitte Versailles, en 1753, elle le nomme dans la fonction la plus haute, c'est-à-dire chancelier d'État, ce qui correspond notamment à la fonction de ministre des Affaires étrangères. Et là, il y a, en quelque sorte, un couple politique qui s'est formé, Marie-Thérèse, Kaunitz, et un couple politique qui fonctionne en grande harmonie. Mais encore une fois, à la fin des fins, c'est elle qui décide, c'est elle qui donne les impulsions.
En parlant de couple, parlons du couple qu'elle forme avec François-Étienne. Parce que ce qui peut étonner ou marquer, c'est que Marie-Thérèse, avec François-Étienne, a 16 enfants. Alors comment peut-on régner quand on est quand on a 16 grossesses comme ça et 16 enfants à élever? Enfin, même si tous n'ont pas survécu.
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, ça peut paraître étrange. Mais c'est là encore une confirmation que c'est elle qui dirige. Alors même qu'elle est enceinte, alors même qu'elle met au monde un enfant, garçon ou fille, elle dirige les affaires de l'État. Elle ne se dessaisit à aucun moment des affaires de l'État. Même lorsque sa grossesse est proche de son terme, eh bien, elle est encore aux commandes. Et elle ne quitte les commandes que très très peu de temps, l'accouchement, et dès l'accouchement terminé, elle reprend les commandes. Donc cet obstacle, ce qui aurait pu être un obstacle, ne l'a pas été.
Alors, en termes de politique de l'État, il y a aussi les affaires religieuses. Le début du XVIIIe siècle est marqué par la victoire de la contre-réforme catholique. Quelle est la politique religieuse, tout simplement, que mène Marie-Thérèse ?
On est effectivement dans le siècle, l'autre siècle du baroque, l'autre siècle de la contre-réforme, tout au moins dans la première partie. Marie-Thérèse est une fervente catholique dans la tradition de ses ancêtres et de ses parents, et elle va le demeurer jusqu'à son dernier jour. Et il y a tout de même un certain nombre d'inflexions qui s'observent au cours de son règne. Alors, non pas en termes de tolérance. Sa position est et demeure, pourrait être appelée une tolérance zéro. Ça veut dire à l'encontre des protestants en premier lieu. Par ailleurs, elle n'a aucune sympathie pour les juifs. Ce qui ne veut pas dire qu'elle pratique une politique d'antisémitisme, mais elle n'a pas de sympathie du tout pour eux. Où les inflexions sont à noter, c'est qu'au cours de son règne, on voit progressivement se réduire l'influence des jésuites, qui au début du règne occupent des positions dominantes dans tous les domaines, et notamment le domaine de l'éducation, domaine universitaire. Et progressivement, donc, cette influence diminue. Elle diminue au profit de l'école janséniste. Elle a autour d'elle son médecin, Franz Witten, qui vient des Pays-Bas, qui est janséniste. Et ça veut dire très réservé à tout le moins à l'égard des jésuites. Et son influence grandit et déborde le terrain de la médecine. Et ce qui fait que, par exemple, à l'université de Vienne, eh bien, les jésuites vont être progressivement éliminé. Mais ce n'est pas une politique de tolérance, politique qui sera menée par son héritier, Joseph II, qui va introduire une patente de tolérance, mais Marie-Thérèse sera décédée à ce moment-là.
Le XVIIIe siècle, c'est aussi l'apparition des idées nouvelles portées par les Lumières européennes, oui, par le rationalisme. Comment se positionne Marie-Thérèse face à ces idées nouvelles? Est-ce qu'elle est plutôt portée vers la censure de ses écrits ou est-ce qu'elle les tolère?
Non, elle n'a aucune sympathie pour les Lumières, à la différence de son fils aîné, le futur Joseph II, qui est en quelque sorte, qui sera un empereur philosophe. Elle récuse ses idées et par conséquent, leur diffusion à travers l'Autriche n'est pas acceptée. Alors bien sûr, sous le manteau, il y a des ouvrages qui circulent, ça c'est autre chose. Mais elle est donc très hostile. Ceci dit, il y a peut-être quelques bémols à introduire parce que son époux, François-Étienne, catholique comme elle, mais un catholique plus tolérant, et d'ailleurs, il est entré dans la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie qui est officiellement interdite, mais on ferme les yeux. Et puis, il y a ce personnage capital dont je vous parlais, en d'autres termes, Kaunitz. Kaunitz, lui, est actif des nouvelles. Et d'ailleurs, il était déjà intéressé, mais son séjour en France, qui a duré 3 ans, l'a évidemment amené à développer des contacts avec ces milieux des philosophes. Lui, il est catholique, mais si vous voulez, il observe pour la forme, parce que il ne serait pas concevable que le principal ministre de Marie-Thérèse s'écarte de la ligne tracée par la souveraine.
Une souveraine, Marie-Thérèse, dont on s'intéressera plus particulièrement au lien avec les pays de la couronne de Bohême dans la suite de cet entretien avec l'historien Jean-Paul Bled la semaine prochaine.